Vous êtes sur Fred Film Radio, Benedict Pro, aujourd'hui avec vous pour la toute dernière émission consacrée à l'édition 2015 du Festival Cinéma du Réel. Pour cette toute dernière, j'ai décidé de vous parler d'un film qui était en compétition française et qui a retenu mon attention. Je ne suis d'ailleurs pas la seule puisqu'il a gagné le prix du patrimoine de l'immatériel et une mention du jury du prix de l'Institut français. Ce film s'appelle Nocturne, au pluriel, et je suis donc aujourd'hui avec son réalisateur Mathieu Barrère. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Dans Nocturne, vous nous faites vraiment pénétrer dans un univers insoupçonné, presque un univers parallèle, puisque non seulement on est dans cet espace vaste et fascinant qu'est l'hippodrome de Vincennes, mais on le découvre de nuit, puisque on suit une bande de joueurs qui jouent aux fameuses Nocturnes. Ce lieu qui est quand même presque une dimension parallèle, comment vous l'avez découvert et comment vous avez réussi à le pénétrer ?
Par hasard d'abord, puisque c'est une amie qui m'a amené sur place en septembre 2012. Et ensuite, par nécessité intime, parce que je cherchais depuis longtemps un lieu dans lequel je pourrais rester et commencer à faire du cinéma. Et c'est exactement ce temps et cet espace qui m'ont d'abord marqué. C'est-à-dire que d'emblée, j'ai eu envie de faire un portrait du lieu, et pas forcément de personne en particulier. C'était vraiment d'abord cette atmosphère-là qui me plaisait, et cette forme d'irréalité que je trouvais sidérante parce que c'est un espace complètement vide avec des dimensions très volumineuses et dans lequel résonnait seulement les cris des torfistes. Et je me suis dit tiens, je vais faire un film ici.
Comment vous avez trouvé ce groupe d'amis? Enfin, on voit surtout quatre personnages, me semble-t-il, qui sont vraiment un peu seuls dans cet hippodrome. Enfin, il y a du silence, mais il y a du chaos dans ce lieu, mais eux le fréquentent plutôt dans un moment où il est très silencieux.
Ce sont les Nocturnes de Vincennes, qui se déroulent de 20h à minuit. Ils vont là-bas parce que ça leur permet de vivre d'autres vies que la leur, de se décharger du stress de la journée.
Ce groupe d'amis qu'on suit, ils sont dans une bulle, c'est vrai, ils ont leur vocabulaire, ils ont leur langue, comme ça, mais ils semblent presque comme des fous encagés. Il y a même, dans les moments, enfin, pendant les courses, où ça vire à l'hystérie collective, c'est presque une transe, enfin, il y en a un qui se remue d'avant en arrière, comme dans une prière enfiévrée, il y en a un qui tape partout avec son magazine, en criant sur un rythme presque coïtal, enfin, c'est vraiment des personnages absurdes dans un espace absurde.
Pendant très longtemps, j'ai pensé faire un film sur le rite. Ce que je me répétais, je me disais, je vais les filmer comme ce que Wittgenstein a appelé les animaux cérémoniels, c'est-à-dire des personnes tout simplement qui accomplissent des choses qui, d'un point de vue extérieur, peuvent paraître irrationnelles, et en vérité qui trouvent une satisfaction, une véritable efficacité dans ces actions. Et finalement, tout ça, je pense que c'est au montage, même au tournage en fait, que ça s'est joué, c'est-à-dire que je l'ai laissé progressivement de côté, et j'ai pas essayé de les comprendre, de donner des explications sociologiques ou je ne sais quoi, c'est simplement essayer de les accompagner et de plonger dans leurs pulsions. Et au final, et très tardivement, je me suis rendu compte que j'avais fait un film sur leurs pulsions, sur leur jouissance.
Alors, si on reste dans l'image de l'idée d'univers parallèle, il y a un objet à l'intérieur du film qui sert un peu de portail, c'est le petit écran, qui est toujours central. D'ailleurs, on ne voit pas vraiment les courses, on ne les voit qu'à travers les pixels de l'écran, on les voit dans les petits écrans de contrôle dans la régie, on les voit parfois dans les yeux des personnes qui regardent l'écran et dans lesquels ils se reflètent.
Bah, c'est la première chose que j'ai vue, en fait, que la course n'était pas regardée directement, mais toujours à travers les écrans. Et en cela, je voyais dans Vincennes une sorte de grande métaphore de la société des écrans dans laquelle on vit actuellement. Donc je me disais, il faut absolument que les écrans soient, disons, fassent partie du film. Pas pour faire un film, disons, expérimental ou je ne sais quoi, d'expérimenter quelque chose visuellement, mais simplement parce que c'était le contre-champ de leur regard. Ça paraissait tout à fait naturel, en fait, si je faisais un film dans leur point de vue, d'intégrer en contre-champ les pixels, les écrans, et y plonger complètement, c'est-à-dire le filmer de très près en longue focale. D'emblée, en fait, j'ai pensé que le film pourrait se construire à partir, disons, avec comme centre l'écran. Avec d'un côté les personnes qui sont face à l'écran, qui les consomment, qui consomment les images, qui sont maintenues à leur flux, et de l'autre côté les personnes qui fabriquent ces images, c'est-à-dire toute la régie de Vincennes, les caméras, en fait tout un système médiatique qui est très très développé à Vincennes pour pouvoir diffuser le spectacle qui n'est plus vu sur place, mais vu disons à travers les smartphones du monde entier quoi. Donc en fait, l'écran était d'emblée une sorte d'interface.
C'était vraiment votre point de départ.
Oui, c'est ça. Mon point de départ, c'était vraiment Vincennes comme spectacle sans spectateur. Donc forcément, ça passait par l'intégration des écrans dans le film.
Mais finalement, la présence des petits écrans par rapport à la course, elle reflète un peu la géographie du film, parce qu'on est dans cet immense espace, cet hippodrome, et en fait on est tout le temps dans des petites pièces, on est très confiné, il y a des vitres, des murs, des parois, des boxes.
Oui, parce que dans cet espace très volumineux, irréel, Kader et Saphir et leurs amis, enfin cette bande-là, s'est approprié un morceau d'espace, et ils le faisaient en laissant les chaises retourner, enfin comme il n'y a plus personne, toutes les chaises sont retournées, et il y a une sorte de petites loges en fait qui se reconstruisent chaque soir, chaque nocturne, et dans laquelle ils peuvent en fait être tranquilles, à l'abri des regards un peu.
Par contre, s'ils sont obsédés et subjugués par le petit écran, ils ont complètement oublié la lentille de la caméra. Comment vous avez réussi à vous positionner parmi eux, comme ça, comme si vous faisiez partie de la pièce?
Disons que la méthode du film, c'est, je l'ai décidé, disons, de façon négative, en intégrant complètement les limites que eux m'ont posées. Ils voulaient pas être dérangés, ils ne voulaient pas que je les interviewe, ils ne voulaient pas que je leur parle, il fallait pas qu'ils soient parasités, comme ils disent, pendant leur jeu. Donc je me suis dit, la méthode sera d'abord le temps d'immersion, qui a été très long, puisque je pense que je suis resté au moins un an et demi avec eux. Il y a une sorte de pacte, comme ça, qui a été passé au tout début. Je pouvais les filmer, mais il fallait pas que je les dérange. Et je me suis dit que voilà, le film serait aussi le témoin de ce pacte-là, et serait le résultat d'une méthode d'accompagnement qui a duré de longs mois. Simplement, c'est-à-dire que j'essaie de, d'ailleurs j'ai tourné au début pendant un an tout seul, et j'essayais totalement de me faire oublier. Fallait pas que je les dérange, voilà.
Est-ce que c'est ce qui a aussi guidé le film? Parce que par exemple, quand vous posez votre caméra sur une pièce et que vous l'observez et que vous attendez en l'observant de voir ce qui va se passer, comme par exemple dans la scène où on fixe l'écran mais on se rend compte que ce qui se passe c'est une conversation qu'on entend sur le côté de l'écran, est-ce que c'est cette méthode-là qui ont fait prendre au film le tour qu'il a fini par prendre?
Oui, parce qu'en fait c'est une méthode qui s'est progressivement modifiée. Ce qui m'intéresse toujours, c'est de prendre des décisions qui sont ensuite réfutées par la réalité et les formes de vie que je filme. J'attendais simplement que Kader me permette à un moment donné de ne plus avoir juste un cadre fixe et de pouvoir le suivre en panotage. Et ça a pris énormément de temps, arriver à finalement accompagner leur mouvement par le mouvement de la caméra. Ça a pris énormément de temps. Je voulais pas avoir de dispositif, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dispositifs quand il s'agit de parler de cinéma. En vérité, il y a des méthodes, mais les dispositifs, c'est pas vrai. On ne dispose pas les choses, à moins de les figer. Moi, je prenais des décisions qui convenaient à la soirée, et ensuite, j'attendais qu'elles soient contredites. Donc à chaque fois, ça nous poussait à inventer quelque chose, mais de façon très très, enfin dans l'urgence. Je pense que le film est le résultat de ces multiples modifications, de ces multiples métamorphoses. Et je pense que c'est très bien parce que ça donne beaucoup, enfin c'est un film disons qui est plein d'impureté, assez brut en fait. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup cette idée de faire un film qui serait plein d'aspérité. Et je crois que c'est le fruit en fait de ces modifications de la méthode au fil des mois.
Et en même temps, il y a un travail sur le son et l'image qui est très esthétisé, très pur.
Très pur parce qu'en fait, souvent les gens pensent qu'il y a une sorte que j'ai trafiqué les sons. En vérité, je les ai pas du tout trafiqués, je les ai pas densifiés, je les ai pas doublés. C'est du son direct, tout le temps. C'est simplement le montage son qui est très travaillé. Très pur parce que je pense que je voulais quelque chose de très nu, de très brut, donc du son direct. Donc pas de modification, disons, des liaisons de l'image et du son. Mais quand je faisais une coupe, parce que je voulais que le film épouse leur rythme à eux, qui est un rythme de scansion, quand je fais une coupe, c'est extrêmement brutal à chaque fois. Et c'est net. Je pense que cette pureté-là, elle vient de cette netteté.
Voilà. C'est vrai qu'on oscille vraiment entre des moments de silence absolu et des moments de fureur. Bref, et visuellement, c'est un peu comme ça. Pareil, on a des images presque lunaires, et puis des images de ces types dans ces salles sans gloire.
Oui, en fait, quand je dis, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que le film épouse leur rythme, ça va jusque dans leur imprévisibilité. Et c'est en cela qu'ils deviennent, je crois, de vrais personnages. C'est qu'on ne peut pas se douter, en fait, de ce qui va arriver. Même si à chaque fois, on finit par avoir une idée de ce qui va advenir, parce que voilà, on comprend un peu leur rythme, le cycle des courses, de leur jouissance. Mais à chaque fois, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement imprévisible, et je voulais que ça se ressente même dans la forme du film. Et c'est des, les gens le vivent souvent comme des sortes de ruptures esthétiques, où on a des intérieurs, disons, qui sont arrachés à un réel assez prosaïque, et des extérieurs qui sont, disons, romantiques. En vérité, j'ai surtout essayé certes, de marquer les écarts, mais de faire circuler une énergie du lieu aux êtres et des êtres au lieu. C'est ça qui m'importait, en fait, de montrer que, au fond, un lieu, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui rend possible certains gestes, certains comportements, certaines paroles, certains cris qui ne sont pas pensables ailleurs.
C'était un projet ambitieux, mais vous avez vraiment bien mené l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, au cinéma du réel, le film a été remarqué et primé. Mais vous êtes tout jeune et ce n'est que votre premier long métrage. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours?
Oui, j'ai un projet de moyen métrage de fiction et un projet de long métrage documentaire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il s'agira d'aller un peu plus loin que Nocturne et de continuer à faire ce que je pense avoir commencé à faire de façon assez inconsciente, à savoir une sorte d'histoire du présent. Essayer d'être attentif aux nouveaux usages du corps, aux nouvelles paroles, à tout ce qui émerge et qu'on n'a pas encore vu. Voilà, tout simplement, dans les usages communs de la parole et des corps.
C'est vraiment curieuse, on ne peut pas savoir dans quel lieu ou dans quel temps on se situera dans ces deux projets.
Par le plus grand hasard, il s'agira un corps de nuit. Ce n'est pas parce que j'aime la nuit particulièrement, mais je crois que c'est le seul moment, le seul temps dans lequel les gens arrivent encore à se libérer.
Tout un programme. Nous parlions de Nocturne, au pluriel, avec Mathieu Barrère. Merci Mathieu.
Merci.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.